Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler de la promotion des droits des peuples autochtones, comment assurer la mise en œuvre et la promotion de la loi portant protection des droits des peuples autochtones pygmées. Alain Parfait Ngoulungou, expert en gouvernance climatique et sur les questions des peuples autochtones pygmées, sera notre invité tout à l'heure. Et on aura également, il est déjà en ligne, Alain Parfait, bonjour. Alain Parfait, vous êtes là, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Capi.
Bienvenue dans cette émission où nous allons également recevoir John Nkumu Benani, chargé de plaidoyer au sein de la dynamique des groupes de peuples autochtones. Nkumu Benani, bonjour. Il n'est pas encore en ligne. Voilà, on va le recevoir dans quelques instants. Vous êtes, ces sujets vous intéressent? Vous voulez participer? Appelez-nous au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Dionne Nyangassé à la mise en onde. Tati Marcel Ngombo assure la coordination et la réalisation de cette émission. Micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Capi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Capi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Capi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission au Capi Service. La RDC dispose désormais d'une loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. La cérémonie marquant l'entrée en vigueur de cette loi a été organisée le 14 février dernier au Palais du Peuple en présence du Premier ministre. D'après nos sources, cette loi met fin à la marginalisation et aux discriminations dont les peuples autochtones pygmées étaient victimes. Parmi les innovations de cette loi, on note l'accès gratuit à l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'accès gratuit à la justice et la valorisation de la pharmacopée autochtone. Comment assurer la vulgarisation et la mise en œuvre de cette loi? Alain Parfait Ngoulungou, vous êtes expert en gouvernance climatique et sur les questions des peuples autochtones pygmées. On peut dire aujourd'hui que c'est une grande avancée, le fait que la RDC puisse disposer aujourd'hui d'une loi qui porte protection des peuples autochtones 34 ans après.
Salut Jody et salut à tous les fidèles auditeurs de la radio Capi. Vous savez, cette présente loi, une des premières dans son genre, une des premières dans notre pays, et il faut les reconnaître que nous étions en retard par rapport à d'autres pays. Cette loi porte sur la reconnaissance des droits coutumiers et de la population autochtone, et donc pour nous c'est une des premières, et elle doit maintenant passer à l'étape de la vulgarisation et de la sensibilisation auprès non pas seulement des peuples autochtones mais de toute la population congolaise, pour essayer un peu de faire reculer la stigmatisation et la discrimination dont est victime les peuples autochtones depuis plusieurs années.
Bien, et d'après vous maintenant, comment doit-on mener d'abord la vulgarisation et ensuite la mise en œuvre?
Bon, en effet, cette loi en elle-même aussi comporte certaines dispositions qui justement appellent les institutions de la République à procéder justement à sa sensibilisation et mais aussi à sa vulgarisation auprès de toutes les parties prenantes. Évidemment, il y a aussi des ONG qui accompagnent, qui militent pour la promotion et la protection des droits des peuples autochtones, qui se chargeraient dans les jours à venir à faire aussi ce travail-là. Il y a, par exemple, un mécanisme mis en place qui, vous voyez, l'article 16 de cette loi, qui accorde des droits économiques et sociaux à ces peuples autochtones, et garantit justement non pas seulement l'épanouissement économique, mais aussi le développement social et culturel des peuples autochtones. Donc les trois, l'État prévoit déjà à son article 17 de mettre en œuvre des plans de développement socio-économique, mais aussi l'État prévoit des campagnes de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté, justement au profit de ces peuples autochtones.
Voilà, et parmi les points importants de cette loi, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, les peuples autochtones, ils ont droit à l'éducation, à l'enseignement primaire, secondaire et technique gratuit.
Effectivement, c'est l'État qui, pardon, c'est la loi qui l'institue en son article 22. La loi est claire là-dessus, donc l'accès des enfants autochtones pygmées est obligatoire et gratuit à tous les niveaux de l'enseignement supérieur, de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle dans les établissements publics.
Voilà. Nous avons en ligne M. John Benani Nkumu, chargé de plaidoyer au sein de la dynamique des groupes des peuples autochtones. John Nkumu Benani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Alors, après l'adoption de cette loi, la promulgation de la loi portant protection des droits des peuples autochtones, quel est votre sentiment?
Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord remercier la radio Capi qui apporte une attention particulière sur la question des peuples autochtones. Ma préoccupation ou ma joie est aujourd'hui de voir que le pays s'est doté d'un instrument juridique qui fait la promotion, la protection des droits des peuples autochtones pygmées. Donc, une loi qu'on a milité depuis 14 ans dans notre organisation DGPA. Aujourd'hui, avec la promulgation de cette loi, il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités aux populations autochtones. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une joie pour les peuples autochtones. Il y a quand même des innovations, comme vous venez de le dire. Bien que la Constitution consacre la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, mais cette loi est allée plus loin. En donnant l'opportunité aux enfants pygmées d'étudier gratuitement, même au niveau à l'obtention des diplômes d'État. Donc voilà, il y a des innovations vraiment très importantes dans cette loi.
Et il y a aussi l'accès gratuit à la justice.
Oui, bien sûr. La loi garantit aussi l'accès des peuples autochtones, la facilité des peuples autochtones à la justice. Vu leur état de vulnérabilité, leur état de pauvreté, le législateur a trouvé important de donner l'accès gratuit aux populations autochtones. Donc, il est important que les institutions des droits de l'homme puissent vraiment vigiliser cette loi pour que les juges, les magistrats puissent connaître vraiment l'importance de cette loi qui donne vraiment l'accès facile à la justice.
Voilà, il y a aussi la reconnaissance de la pharmacopée, des peuples autochtones. Pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à cela?
Oui. Donc la médecine traditionnelle qui est plus utilisée par cette population. Donc voilà, la loi aujourd'hui reconnaît la médecine traditionnelle. Donc la promotion de la pharmacopée. Il y a vraiment la loi donne aussi. Les peuples autochtones enlèvent avec leur savoir traditionnel l'utilisation de la pharmacopée. Donc voilà, donc vraiment ce sont des innovations qui est contenue dans cette loi qui doit être vulgarisée.
Voilà, alors comment d'après vous on doit mener cette vulgarisation, parce que souvent, surtout la mise en œuvre, on dit souvent qu'en RDC on a des lois, des belles lois, mais qui ne sont pas du tout appliquées, etc.
Bon, il appartient tout d'abord à l'État congolais, parce que c'est une loi de l'État congolais qui s'est dotée de cet instrument juridique. Il appartient à l'État congolais de vulgariser d'abord, de traduire la loi dans des langues facilement compréhensibles par la population, qui est en majorité analphabète. La traduction de cette loi dans 4 langues nationales, et puis la vulgarisation. Donc c'est l'État d'abord qui a la responsabilité de vulgariser cette loi pour que les concernés puissent se l'approprier. Et j'appelle aux partenaires, nos partenaires traditionnels qui travaillent avec les organisations des peuples autochtones, de nous faciliter avec des appuis techniques et financiers pour que nous-mêmes, les organisations qui militent pour les droits des peuples autochtones aujourd'hui, puissions vulgariser cette loi auprès de nos populations qui sont vraiment dans les milieux les plus reculés au niveau des campements, au niveau des villages, pour que la population autochtones pygmées puissent s'approprier cet instrument qui leur protège et qui leur fait la promotion.
Bien. Alors, je reviens à vous, Alain Parfait Ngulungu. Par rapport à la mise en œuvre, qu'est-ce qui doit être fait pour que cette loi ne reste pas comme les autres? On a des lois, mais l'exécution a souvent posé problème. Alain Parfait? Monsieur Alain Parfait, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui, vous avez la parole.
Oui, je disais qu'avant toute chose, je voudrais saluer mon ami de longue date, John Benani, avec qui on s'est rencontré pour la première fois il y a 10 ans, plus de 10 ans à l'Équateur. Pour répondre à votre question, vous savez que cette loi en elle-même, d'abord, donne l'occasion maintenant à la RDC de pouvoir protéger et pour promouvoir le patrimoine culturel, intellectuel, religieux, spirituel que regorge les peuples autochtones pygmées en RDC. Elle est immense, cette richesse-là culturelle des peuples autochtones pygmées. Et donc l'État lui-même a cette responsabilité-là pour vulgariser ces lois et pouvoir mettre les moyens. Évidemment, l'État était toujours accompagné exactement par les organisations de conservation internationales, les organisations internationales de conservation, dont notamment Rainforest Norway, WWF, la Banque mondiale et tous les autres qui accompagnent l'État dans cette mission-là. Mais cela ne le dédouane pas de sa responsabilité régalienne de pouvoir mettre en œuvre cette loi en dotant les organisations nationales des moyens pour faire la virtualisation de ces lois-là. Je crois qu'à travers cela, l'État va justement matérialiser cette vision telle que contenue dans cette loi.
Voilà, il est également prévu dans cette loi que l'État va créer un fonds de promotion des droits des peuples autochtones. Il revient au Premier ministre de pouvoir créer cela. Et quelle est votre réaction, Alain Parfait, par rapport à ces fonds spéciaux?
Oui, et je crois que ce fonds spécial aura pour mission, j'anticipe, en attendant les décrets qui sera pris par le Premier ministre, de pouvoir financer toutes les opérations concourant justement à la promotion et à la protection des droits des peuples autochtones pygmées. Et je crois qu'à travers un tel instrument financier, l'État se dotera d'une institution capable de pouvoir coordonner toutes les activités mettant en jeu justement l'essentiel des dispositions prises dans cette loi pour justement faire la promotion des droits économiques, des droits sociaux et culturels, ainsi que des droits portant sur l'environnement relatifs aux peuples autochtones, pygmées en RDC. Et je crois qu'avec cet instrument, cela va assurer et garantir justement la pérennité de toutes les activités concourant au développement socio-économique des peuples autochtones, pygmées en RDC.
Bien, je reviens à vous, John Benani. Quels sont les problèmes auxquels les peuples autochtones sont souvent confrontés?
Merci, Jody. Je salue mon ami de longue date, Alain Parfait. Donc, les problèmes que nous sommes confrontés, d'abord la discrimination à tous les niveaux, dans les 21 provinces. Que sont localisés les peuples autochtones, nous racontons d'abord la discrimination vis-à-vis de nos voisins. Ça, c'est un. L'exclusion, la stigmatisation. Ça, c'est un. Cette stigmatisation a donné aussi maintenant la pauvreté aux peuples autochtones. Donc, cette discrimination a contribué aussi à enfoncer les peuples autochtones dans la vulnérabilité. Donc, voilà, autant de problèmes que connaissent les peuples autochtones vient de la discrimination que nous connaissons vis-à-vis de nos voisins, qu'on appelle des fois bantous, nilotiques et soudanais. Donc, cela a enfoncé les peuples autochtones dans la pauvreté, dans l'exclusion. Donc, voilà, c'est les problèmes que nous sommes confrontés, c'est ça. Dans tous les pays de la RDC.
Voilà. Et cette loi a parlé aussi du travail. Les travails des peuples autochtones ont également un droit au travail. Alors, par rapport au travail, à ces domaines, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Quels sont les vrais problèmes et quelles sont les réponses que cette loi apporte?
Oui, oui. Donc, la loi prévoit que l'État doit garantir la représentativité des peuples autochtones dans toutes les institutions de toutes les décisions. Donc, c'est à partir des décrets du Premier ministre, on doit garantir la représentativité des peuples autochtones dans toutes les institutions de prise de décision. Et voilà, la loi garantit aussi pendant le recrutement. Donc, à compétence égale, la priorité est donnée aux peuples autochtones pygmées. Donc, quand on veut recruter les gens dans les institutions de l'État, dans la fonction publique ou comment, mais s'il y a un autochtone qui remplit les capacités par rapport à un bantou, on recrute, la priorité est accordée d'abord aux autochtones. Voilà les privilèges que sont cette loi par rapport au travail en faveur de toutes les personnes.
Alain Parfait, votre réaction par rapport au domaine du travail?
Oui, l'article 49 de cette loi institue ou autorise aux peuples autochtones une rémunération équitable, mais aussi un accès, à un droit au travail comme tous les autres citoyens congolais, ainsi que les avantages sociaux y afférents et à la sécurité sociale sans aucune discrimination. Vous savez, par le passé, les peuples autochtones pour qui nous avions beaucoup, des organisations pour lesquelles j'ai travaillé à l'époque, ont investi beaucoup de moyens, n'avaient pas accès au travail comme tous les autres Congolais, justement suite à la discrimination, à tous les problèmes liés à la stigmatisation, et donc ce qui ne permettait pas d'avoir accès au travail comme tous les autres citoyens. Et comme cette loi garantit maintenant à tout autochtone les droits au travail, mais il est allé, la loi est allée aussi au-delà pour accorder la liberté de créer des emplois, des entreprises ou toute autre activité génératrice de revenus pour l'ensemble du territoire national. Donc désormais, les peuples autochtones ont droit, comme tous les autres citoyens, à la liberté de création d'entreprises, de création des emplois et même à mener d'autres activités génératrices de revenus, chose qui n'a pas été le cas par le passé.
Voilà, mais comment les amener eux-mêmes à sortir de cette... parce qu'ils ont souvent l'impression d'être inférieurs par rapport aux autres, aux Bantous. Et comment les amener à sortir de cette situation-là et à se sentir enfin libérés et à s'épanouir, à l'imparfait?
Bon, l'État lui-même, d'abord, à travers cette loi, prend des mesures. Bon, il y a des articles qui, justement... comme notamment l'article 23, qui appelle l'État à prendre des mesures pour assurer une communication positive sur les peuples autochtones, pygmé, dans des programmes d'éducation, de formation ou dans des structures appropriées. Et donc l'État met à la disposition du public des moyens d'enseignement, d'information et de communication pour endiguer cette stigmatisation, cette discrimination dont a été victime depuis belle lurette les peuples autochtones. Et cela doit refléter réellement la diversité culturelle, les coutumes et l'histoire, ainsi que les aspirations des peuples autochtones pygmées et mères.
Bien, on va accueillir Platini depuis Mbandaka. Bonjour.
Bonjour. Je dis bonjour. Je salue les deux co-débatteurs.
Bien, on parle aujourd'hui de la loi, la mise en œuvre de la loi portant protection des droits des peuples autochtones pygmées, qu'on appelle là-bas chez vous les Batois. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Voilà. Je dis merci beaucoup pour avoir associé dans ce débat. D'abord, je profite à cette occasion pour saluer John Benani Koumou, qui est au studio ensemble avec vous, et aussi la personne vraiment qui a été ici dans la ville de Mbandaka pour les valeurs de débattre, comme on dit ici à Mbandaka. Bon, je dis, je pense que j'ai bien suivi la thématique, c'est bien. Mais si je pars très loin, pour dire qu'il n'y a pas de différence entre le Kundu et le Batua, comme on dit, c'est la vie de Mbandaka. Il était le peuple congolais, les Batua aujourd'hui, parce que je viens dans un village à Ingende, là où il y a beaucoup, là-bas on appelle les Balumbe, là où il y a beaucoup de petits pygmées, mais on a fait la cartographie, on a trouvé que s'il y a 95% des pygmées qui se font enrôler, et on les casse des lecteurs, plus que même les Kundu. c'est mené un adage là-bas qu'on dit que cette fois-ci, nous, le peuple Botswana, on va chercher maintenant notre député de Botswana. Ce qu'on a dit, parce que j'étais là la semaine passée. Mmh. Mais n'a pas comme vous
c'est,
avez
c'est
dit.
C'est dans quel village vous avez moi, dit je...
Oui, moi j'ai dit ceci.
Vous étiez dans quel village
que... Oui, j'étais dans un village à Ingéné. Donc
vous étiez à Ingéné.
Il y a un village là, Bukatola. Là-bas, on a constaté qu'il y a 95% des pygmées qui se sont enrôlés massivement. 95%, je vous dis. Et le pygmée elle-même dit que cette fois-ci, ils vont faire tout l'effort pour voter le député de Botswana. Moi, je pense que je dis, si aujourd'hui, bien qu'on fait pression, j'ai suivi le Menikoumou, on fait pression, mais le pygmée elle-même ne s'intéresse pas. Je prends un exemple comme sur le plan d'éducation. Le pygmée elle-même ne veut même pas étudier. Le pygmée elle-même est sur le milieu public. Il se fait lui-même laisser eux-mêmes. Or, c'est ça tous ces citoyens congolais. Donc, si ce qui est important, c'est que moi je dis, cette loi, oui, ça c'est bien. Mais doit toujours être protégé comme tout le monde. C'est un être humain, c'est de la créer, c'est le sang. Et le sang des Pygmées et le sang des Bachou, des Kundo comme moi, il y a toujours le sang rouge. Et aujourd'hui, le pygmée peut devenir juriste comme je dis Kachama. Donc, il n'y a pas une différence. Mais ce que moi, j'estime, alors je ne sais pas parce que par rapport à la cartographie qu'on a fait sur le terrain, ici, même dans la ville de Mandaka, il y a même une école de pygmées. Mais ici, la cartographie, les milieux périphériques, il y a beaucoup de pygmées. Mais si vous allez dans cette école-là, vous allez trouver que non, il n'y a pas de pygmées qui se font étudier. Il y en a. Mais ici, ils sont nombreux. Et les pygmées eux-mêmes se sont laissés dans le travail, les pousses-pousses, etc., les kumba-kumba, comme on dit. Mais le travail sur le terrain, le travail, prendre en considération les pygmées, se sont eux-mêmes lésés pour dire que non, ah, ma colline a dû sauter, tout ça. Donc, ce que moi je dis, que je fais aussi un peu d'œil parce que j'étais dans un village où il y avait beaucoup de pygmées. Donc il y a pas un controverse entre le pygmée et nous le bâton.
D'accord,
c'est
merci.
Que je propose à John Benani Koumou de faire la sensibilisation, de descendre dans la ville de Mbandaka, de descendre dans différents territoires là où il y a beaucoup de pygmées, de le faire sensibiliser que Botswana Kundo bazaka bâton moko. Il y a pas tout ça non.
Il y a pas de différence. Que, d'accord.
Il y a pas non.
Merci Platini.
Il y a une marque de sensibilisation, il y a une marque de communication avec le pays. Voilà ce que moi je vais ajouter dans ce débat.
D'accord, merci Platini. John Benani, vous avez la parole. John, vous êtes là? Voilà, je pense qu'il n'est plus, il a décroché. Marcel va le rappeler. Ah, vous êtes là. John Benani, vous avez suivi, il y a Platini de Mbandaka qui nous dit que là-bas, à Bukatola, 95% des peuples autochtones se sont enrôlés, mais il y a même une école en Mbandaka, mais beaucoup ne veulent pas étudier. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, je salue Platini en passant, je le remercie beaucoup pour cet éveil de conscience qu'il vient de me faire. En tout cas, Platini, mon frère, mon ami, félicitations, merci beaucoup. Je voudrais dire à Platini ceci, il faut un effet de conscience collective. Donc, un effet de conscience collective de la part des populations autochtones. Nous devons nous éveiller collectivement et puis nous avons une forte responsabilité, nous les leaders autochtones qui venaient, pour sensibiliser cette loi auprès de nos communautés, pour vraiment éveiller, expliquer la loi auprès de notre communauté. Donc nous avons une lourde responsabilité, nous les peuples autochtones, pour expliquer à nos frères et sœurs l'importance de cette loi. Et nous avons plusieurs failles, nous avons plusieurs failles, comme venait de le dire Platini. Donc c'est une conscience collective qui doit s'éveiller aujourd'hui avec l'opportunité de cette loi. Je crois que tout ce que Platini a dit, je suis d'accord avec lui. Je sais que le territoire d'Ingéné, chez moi en Équateur, c'est la population la plus grande, c'est la population pygmée. Je crois que la population s'est éveillée pour dire que, en tout cas cette fois-ci, pendant les élections, nous allons élire les nôtres. Donc ils sont là-bas nombreux, les prisonniers qui ont étudié, ils sont à Ndende beaucoup. Et je suis avec d'autres ici à Kinshasa qui sont venus avec sous l'invitation du ministre de tester, hein, parce qu'ils ont construit leurs écoles. Aujourd'hui, il y a un problème dans leurs écoles. Il y a une coordination des écoles des peuples autochtones en Équateur, où la gestion de ces écoles ne sont pas vraiment bien organisées. C'est pourquoi ils sont invités. Je suis avec un leader de ici, Josué Kambe, que tout le monde connaît. Donc, voilà, merci beaucoup Platini, vraiment je suis d'accord avec toi dans cette éveil de conscience, de cette sensibilisation que vous êtes en train de pousser pour nous prendre en charge. Donc merci beaucoup monsieur Tudé. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'intervention de mon ami.
Oui, John Benani, est-ce que avec les élections qui se profilent à l'horizon, on peut espérer qu'il y aura beaucoup de candidats autochtones, pygmées à la députation nationale ou à d'autres fonctions?
Oui, donc, je vous dis que j'ai vu un leader autochtone qui est parti et qui a quitté Kinshasa ici pour aller s'enrôler à Kiri. À Kiri, chez lui, il est candidat député national. Il va confronter les Bantous. Je vois aussi un jeune leader aussi de qui est à Kiri, il est de Bikoro, qui a aussi cette ambition. Je crois que d'ici là, il va descendre sur le terrain. Je crois que partout, par-ci, par-là, nous sommes en train de faire la cartographie de ceux qui ont des ambitions, hein, et de ceux qui ont beaucoup. Ils sont maintenant éveillés par rapport aux élections prochaines, hein, de cette année. Je crois que nous aurons vraiment des candidats autochtones. Et puis, je suis sûr et certain qu'ils vont, ils vont réussir parce que les autochtones se sont vraiment ligués maintenant pour ne pas donner leur voix à d'autres personnes qui doit leur diriger. Donc voilà, il y a une décision, il y a une prise de conscience collective de la part des populations autochtones aujourd'hui. Et vous allez voir avec moi dans les prochains jours, nous aurons des candidats au Parlement, hein, comme les autochtones.
Bien, on va accueillir Maître Gaston de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Mais Jody, on a déjà les autochtones dans toutes les institutions. Les institutions du pays, les bouts d'hommes que nous voyons là-bas partout. Ce ne sont pas des pygmées. Ça, c'est d'abord là. Et puis, deuxièmement...
Non, écoutez, Gaston, je pense que c'est pas mieux de les appeler comme ça, des bouts d'hommes.
Non. Mais moi, je voulais un peu, hein, quand vous parlez des pygmées, c'est ça vraiment ma réaction. Quand vous parlez...
Non, là, il faut... Je pense que c'est mieux d'utiliser d'autres mots de rectifier. Est-ce que vous avez des preuves qu'il y a des peuples autochtones pygmées dans toutes les institutions?
Oui. D'abord, laissez-moi vous dire que dans aucune entité de notre pays, hein, vous trouverez des pygmées vivre de manière isolée, ou soit vivre cadré. Dans tous les villages aujourd'hui où vivent les pygmées, il y a des bantous. Il y a même un mixage où les pygmées se sont mariés avec des bantous, ils ont fait des enfants. Il y a même des autres enfants qui ont la taille des insectes pygmées là qui se trouvent un peu partout là. Alors, je voulais un peu qu'on puisse réfléchir sur l'esprit de la loi en soi, qui a été mise à vigueur récemment, que vous demandez que ça puisse être à la portée de tout le monde, ou soit à la connaissance de tout le monde. Vous savez, selon l'esprit de cette loi, quand on parle d'un peuple autochtone, on renvoie à la notion de l'originaire congolais, de toutes les tribus, au quoi on qualifie les ethnies qui se retrouvaient ici, sur notre territoire avant l'indépendance, sont originaires du Congo, les ascendants ou des descendants justement sont originaires du Congo. Et vous verrez que ce sont ces ascendants-là qui sont arrivés à l'époque, qui ont conquis des territoires peut-être qui n'étaient pas habités par les Pygmées en fait à Lyon, qui aujourd'hui jouissent de ces droits-là comme apparemment propriétaires, bien que les sols se soient passés à l'État. Maintenant, la question devrait, à mon avis, par rapport aux autochtones, devrait se poser sur tous les endroits reculés où vivent ces originaires-là qui sont encore dans leur village, bien qu'il y a d'autres qui revivent, d'autres tribus qui arrivent aussi, qui sont dans des villages qui souffrent aujourd'hui, qui n'ont pas une bonne formation, qui ne savent même pas exploiter la nature ou les sols qu'ils ont, et comment la loi devrait prendre en compte ces gens-là, les ruraux, qui qualifient moi les originaires qui vivent dans chaque contrée.
Qui sont dans les villages, oui.
Oui, je voulais finir pour dire que, à mon avis, commencer à considérer les pygmées comme les gens spéciaux, ou soit continuer à commencer ces gens-là comme les gens spéciaux, ou si pas spéciaux, mais différents de nous autres, serait aussi une manière de renforcer la discrimination. Parce que je vous mens pas, nous vivons avec les pygmées ici. Moi, j'ai des gens qui se sont mariés avec des pygmées, ils ont des enfants qui n'ont pas la taille des pygmées. C'est pour ça que je vous ai même dit qu'il faut s'interroger par rapport aux gens qui ont une courte taille et qui sont partout. Est-ce qu'ils ne sont pas d'origine pygmée, ils n'ont pas des ancêtres pygmées? Et vous verrez que la notion de la loi serait de protéger tous ces originaires-là qui vivent dans leur milieu d'origine ou leurs ancêtres avaient acquis. Et ils vivent que de la quête aujourd'hui. S'ils ne font pas les chances, c'est impossible. Il n'y a pas de route là-bas pour évacuer certains produits qui produisent certains produits.
D'accord. Merci beaucoup, oui. Maître Gaston. Monsieur Alain Parfait Ngoulungu, à vous la parole.
Je salue Maître Gaston. Je voudrais lui dire que je suis tout à fait en désaccord avec ses propos tenus qualifiant des pygmées de bout d'homme. Ce n'est pas ça la définition des pygmées. Les pygmées eux-mêmes doivent se définir selon leur identité, selon leur localisation et selon leur vouloir de vivre ensemble avec les autres communautés. Eux-mêmes se définissent comme pygmées. Évidemment, il y a d'autres terminologies qu'ils utilisent. Par exemple, chez Anituri, ils sont appelés les Mouti. Si vous allez vers au sud, le sud du Bangui, ils s'appellent des Bambenga, les Binga, les Balumbe, les Baswa, les Twa en Équateur. Donc, ils se définissent eux-mêmes pygmées selon leur culture, leurs arts, leurs traditions et leurs danses. Donc, ce n'est pas à vous ou à nous de les définir comme des bouts d'hommes. D'ailleurs, une hypothèse qui est absolument fausse, parce que moi, j'en ai vu des pygmées ayant une longueur plus que même des bantous. Et donc, je crois qu'une telle appréhension biaise déjà les débats et ce n'est pas bien. Pourquoi la RDC spécialise, si vous voulez, cette réglementation en faveur des peuples autochtones? Justement, c'est pour se conformer aux instruments juridiques internationaux. La RDC est signataire de plusieurs conventions internationales qui appellent justement au respect des droits des peuples autochtones. Vous aviez par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Vous aviez des textes, notamment, qui reconnaissent explicitement le droit à l'autodétermination, notamment les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques. Et tout récemment, il y a la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones de 2017, qui justement pousse l'État, la RDC, à se conformer tout en reconnaissant explicitement les droits de ces peuples-là, qui sont appelés des peuples autochtones pygmées en RDC. Et donc, en prenant une telle loi spécifique en faveur de ces peuples, c'est pas pour le diviser des bantous, mais pour assurer la protection et la promotion de leurs droits culturels, économiques et politiques. Et donc, revenant à la question liée aux droits politiques, j'aimerais ici préciser, comme votre radio a un caractère pédagogique, cher Jody, que nous ne faisons pas, nous ne soumettons pas les peuples autochtones pygmées à une rixe, à une bataille électorale face aux bantous. Ça, c'est très dangereux de tenir des très propos, mais du moins, nous reconnaissons leurs droits politiques pour participer aux échéances électorales comme toutes les autres communautés sur l'ensemble du territoire national. Mais cela doit se passer tout en respectant la loi et les réglementations en la vigueur, comme on parle du processus électoral, donc la loi électorale. Et donc, nous ne voudrions pas vraiment soumettre ces peuples-là qui ont été longtemps unis de la société à une autre bataille face à leur voisin, les Bantous ou d'autres communautés.
Bien, on va accueillir Joseph Delicacy. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, je dis Daniel Kassama.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la mise en œuvre de la loi portant protection des droits des peuples autochtones pygmées?
Ok, je veux parler beaucoup à ce sujet qu'on appelle cette personne qu'on appelle les autochtones. Hein. C'est la personne où j'ai connu beaucoup, j'avais vécu ensemble avec lui pendant longtemps des années. Parce qu'il n'y a pas personne incriminise l'autochtone pygmée. Et dans sa tête eux-mêmes, ils ne se développent pas eux-mêmes. Ils ne veulent pas cultiver, ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas travailler quand même pour bien vivre. Qui peut discriminer l'homme arrive à étudier à une distance pour lui refuser de lui élire dans une partie de la responsabilité? Maintenant, je les connais beaucoup. Ceux qui connaissent encore Kabudjiloa, Kifala, et là où Kiyombo, Ngoï, la territoire de Nyonzo, là, il y a une grande évasion des pygmées là. Si vous voyez les sources de conflits, ce monsieur-là ne veut pas travailler. Ce sont comme des sous-estimés chez Bantu. Si chez Bantu, ils sont sous-estimés, c'est pour ça que leurs mains ne travaillent pas à leur intérêt. Si vous allez à Luakato, à Manono, il y a belle infrastructure là où on a construit pour les pygmées et étudié pour les faire être développé pour les agents des Anglicans là-bas. Maintenant, vous êtes trouvé aujourd'hui que ces écoles sont abandonnées à leur successeur. Le pygmée, on abandonne les études pour aller chasser les gibiers à la brousse. Si vous allez encore haut, il y a un monsieur qu'on appelle Fidel Castro, lui qui a été comme un laboratoire à l'hôpital général. Maintenant, il a été tué par ses propres frères pour aller se s'enfuir pour les Bantous. Il néglige les autres, lui qui les considère comme être les Bantous. Mais si les autochtones aujourd'hui comprennent les choses, arrivent à l'école pour aller s'étudier, pour se faire développer eux-mêmes, ils seront considérés comme l'homme et comme les autres ici, en notre pays Congo. Merci, je vous remercie.
Bien, merci. John Benani, à vous la parole.
Merci beaucoup. Je salue nos auditeurs en passant. Je crois que ce qu'ils viennent de dire là, pour moi, je considère d'autres, il y a des conseils de notre part. Ils sont en train de conscientiser la communauté autochtone de s'éveiller, hein, de s'éveiller collectivement. Mais je veux apporter une petite correction par rapport à l'image que les gens pensent pour les pygmées. Ils ont étudié à l'école, nous avons étudié que les pygmées c'est 1m44 et tout ça, mais non, les choses ont beaucoup évolué. Est-ce que moi j'ai la taille de 1m44? Je crois que M. Platini est là, mon ami Alain Parfait là, vous-même Josie, vous êtes là, vous m'aviez déjà vu. Est-ce que moi j'ai 1m44? Je suis de père et de mère pygmées de l'Équateur. Je n'ai pas cette taille-là. Oui. On peut dire les pygmées sont des sous-hommes. Non, ça c'est vraiment c'est une ancienne hypothèse. Mais je voudrais dire ceci, hein, que quand la loi faisant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées a été adoptée en 2021 par les députés, il y avait 389 députés. Si 389 députés, il y avait qu'une abstention. Tout le monde avait dit oui à cette loi. Quand nous sommes passés à la deuxième lecture au niveau du Sénat, il n'y avait aucune abstention. Tous les sénateurs, les représentants des populations dans ces instances, et toutes les décisions, ont accepté cette loi comme une loi que le pays doit se doter. Donc voilà, hein, l'importance de cette loi aujourd'hui, c'est pour un développement intégral de toute la population de la RDC. Voilà, hein, donc je voulais recadrer un peu notre auditeur, hein, qui est en train de chasser l'ancienne configuration, mais pour le moment, les choses ont beaucoup évolué. Hein. Donc voilà ma petite contribution par rapport à l'aide d'intervention.
Oui, Joseph Delicassi nous dit que là-bas, par exemple, en Koro, il a cité beaucoup de localités là-bas, dans la province de Katanga. Il dit qu'il y a beaucoup des peuples autochtones qui ne veulent pas étudier, ils préfèrent rentrer, aller faire la chasse, alors qu'il y a des structures pour les former, pour qu'ils étudient, mais ils préfèrent aller rentrer dans la forêt et aller chasser les gibiers.
Monsieur Diobi, écoutez, notre identité est liée à la forêt. Moi, je suis né chez nous à Bikoro, dans la forêt. Il n'est pas dit que comme je suis à Kinshasa, je dois abandonner la forêt. Non, ça c'est vraiment une mauvaise réflexion. Nous sommes nés, notre identité culturelle, c'est garder des forêts. Même si aujourd'hui je suis à Kinshasa, même si aujourd'hui je suis en Europe, même si aujourd'hui je suis aux États-Unis, je ne peux pas me détacher de la forêt. Donc c'est ça, hein, il y a des périodes de l'enfant pygmée aujourd'hui, il y a quand même un éveil de conscience, il commence à étudier, les leaders autochtones pygmées commencent à approcher les infrastructures, surtout de base auprès de nos communautés pour que les enfants puissent avoir accès aux études. Donc voilà, ça c'est ce que l'ami est en train de dire là, c'est qu'on passait, hein, mais maintenant les choses ont suffisamment évolué. Avec la loi actuelle que le pays s'est doté, je crois qu'il y aura un éveil de conscience. Il y aura un changement, hein, de mentalité, un changement auprès de la communauté pygmée.
D'accord, on va accueillir Jonathan de Mbandaka. Bonjour. Jonathan, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Oui, bonjour, 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 j'ai dit bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la loi, à la mise en œuvre de la loi portant protection des droits des peuples autochtones?
En tout cas, c'est un élément important que nous pouvons saluer avec la communauté ensemble. Moi, je pense que cette loi-là va les faire ouvert afin qu'elles puissent prendre leur conscience que non, ils sont les peuples, comme toute catégorie de peuples, ils ont le droit et ils ont les devoirs. En tout cas, ce sont les gens qui sont marginalisés. Et, par exemple, nous qui sommes en Mbandaka, si vous appelez quelqu'un Botchua, et même se sent élevé, et puis, même s'il a raison, s'il peut avoir raison. Et c'est par cet effet-là que les peuples d'Occitan doivent comprendre leurs propres droits. Et puis de comprendre que notre fond est le premier habitat de notre pays. Alors par là, il sera de bonnes choses. D'ailleurs, nous avons un ami, on a eu le même diplôme de licence ensemble, et il est payant. Et jusqu'à présent, c'est ça qu'il travaille beaucoup. Ils sont même intelligents plus que nous. C'est ça que j'avais à dire concernant les droits des peuples autochtones.
Bien, Alain Parfait, vous avez suivi, on dit que la plupart d'entre eux souffrent d'un complexe d'infériorité. Comment arriver à les sortir de là, Alain Parfait?
Oui, cher Jody, il faut remonter d'abord dans les temps pour essayer de comprendre les logiques sociales derrière cette discrimination et ces violences subies par les peuples autochtones pygmées. Cela fait suite justement à un passé qu'a connu ce peuple qui a malheureusement, nous le regrettons aujourd'hui, subi la sous-estimation de la part des autres communautés voisines, essentiellement les Bantous. Et donc, pour répondre à Maître Joseph Delicassi et à Jonathan de Mbandaka, l'État, à travers cette loi, vient maintenant d'accorder cette possibilité-là à tous, notamment son article, l'article 23 de cette loi, pour justement instituer un système d'alphabétisation et d'éducation non formelle des jeunes, des femmes et des adultes autochtones en vue d'essayer de remonter leur niveau de connaissance et d'éducation pour justement curer ces complexes qu'ont les peuples autochtones pygmées, mais aussi éduquer les autres communautés à travers une communication positive afin de pouvoir parler en bien des peuples autochtones pygmées. Évidemment, ces programmes-là, cette communication-là, ce module-là doit être intégré dans les programmes d'éducation et formation et dans les structures éducationnelles de la place et dans les lieux où cohabitent les peuples autochtones avec les autres communautés.
Bien, Alain Parfait, d'après vous, quels sont les moyens efficaces à utiliser pour vulgariser cette loi et arriver à la mettre en œuvre?
Je crois que les moyens traditionnel à utiliser, c'est vraiment les moyens qui peuvent atteindre facilement les peuples autochtones pygmées d'abord, mais aussi les autres communes. Et comme vous savez, nous sommes dans les milieux ruraux. Je crois qu'à travers les radios rurales, à travers des fenêtres, à travers des pièces de théâtre, on peut facilement capter l'attention de ces communautés-là qui seront bénéficiaires de cette campagne de communication, campagne de vulgarisation de ces droits. Je crois qu'il faut utiliser les moyens locaux, les moyens usuels. Il ne faut pas se perdre dans des moyens modernes qui ne pourraient peut-être pas atteindre facilement la cible de ces populations.
Et qu'est-ce qui doit être fait, par exemple, au niveau des organisations de la société civile pour une bonne vulgarisation?
Et par mon expérience chez VVF et Forest People Programme, je crois qu'il est bon que la société civile coordonne cette vaste campagne de communication en faveur des peuples autochtones pygmées, mais aussi des autres communautés voisines, pour essayer de pouvoir les roder dans la mise en œuvre de cette loi, afin de pouvoir limiter, si pas enrayer totalement, la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les peuples autochtones pygmées.
Voilà, John Benani, vous-même, comment est-ce que vous avez déjà un programme de sensibilisation? Est-ce que vous allez descendre dans tous ces milieux, dans les forêts où vivent les peuples autochtones pour les sensibiliser par rapport à cette loi?
Merci beaucoup, Jody. Au moment où je te parle, nous avons produit beaucoup d'outils pour faciliter la compréhension de cette loi auprès des bénéficiaires. Notre réseau dynamique des groupes de peuples autochtones, DGPA, nous avons produit beaucoup d'outils aujourd'hui qui va faciliter la compréhension, et l'appropriation de cette loi par les communautés pygmées. Et aujourd'hui, je vous dis, avec la planification que nous venons faire avec nos partenaires traditionnels, notamment RFN, Rainforest Norvège, il y a encore un plaidoyer qui s'est fait auprès d'Internus, donc il s'agit d'Internus, qui ont ciblé plus de 7 provinces pour passer avec la vulgarisation de la loi. Je crois que le moyen facile, pour moi, je crois nous avons nos outils qui vont faciliter la compréhension de cette loi aux bénéficiaires. Et puis, surtout, on doit traduire la loi en 4 langues nationales pour que les autochtones qui sont en majorité des analphabètes puissent comprendre la loi, l'essentiel de la loi. Nous sommes vraiment bien préparés. Je crois d'ici un mois, nous allons descendre dans 7 provinces bien ciblées pour commencer à vulgariser la loi. Mais c'est un travail du gouvernement congolais. Ça, c'est la loi du gouvernement congolais qui doit sensibiliser, qui doit vraiment planifier la vulgarisation auprès de sa population. Donc le gouvernement a voulu se doter de cet instrument juridique pour protéger sa population qui est vraiment marginalisée. Et au gouvernement, il a aussi sa planification. J'ai suivi le vice-premier ministre de l'Intérieur quand le premier ministre a lancé la campagne d'éducation de cette loi au niveau du Parlement. Il y a un programme déjà établi, il y a une feuille de route. Donc, voilà, nous sommes maintenant les regardants sur cette feuille de route qui avait été tracée par le ministère de l'Intérieur avec ses partenaires. Voilà.
Bien. Alors, pour terminer, John Benani, un message à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, que ce soit les Bantous ou les peuples autochtones, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment?
Ok. Le message que je vais lancer à l'opinion nationale par rapport à cette loi, aujourd'hui, les gens doivent savoir que le pays s'est doté d'un instrument juridique de protection de cette population. Avant la discrimination, qui prévaut auprès des peuples autochtones dans tous les campements, dans tous les villages. La loi maintenant est exécutoire. La loi était déjà lancée. Maintenant, personne n'ignore la loi. Donc maintenant, tout le monde au pays doit savoir que les pygmées sont protégés par la loi de la République. Donc voilà le message essentiel pour moi. Donc tout le monde doit savoir qu'aujourd'hui, il y a une loi que le pays a promulguée pour que cette population, cette catégorie de population soit protégée et soit promue aussi. Ça, vraiment, c'est le message essentiel pour moi.
Merci John Benani, chargé de plaidoyer au sein de la dynamique des groupes de peuples autochtones. Et merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup, Jody.
Alain Parfait, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la mise en œuvre de cette loi portant protection des peuples autochtones pygmées?
Portant sur la reconnaissance des droits coutumiers, cette loi fait justement la protection et la promotion des droits des peuples autochtones pygmées, son cheval de bataille. Et nous estimons que ce texte de loi accorde à la RDC la reconnaissance des droits fonciers coutumiers des peuples autochtones et doit absolument faire l'objet d'une mise en œuvre et d'un suivi permanent par les institutions de la République démocratique du Congo, en vue de pouvoir limiter, si vous voulez, la dépossession des terres et des biens dont sont victimes les peuples autochtones pygmées, mais aussi pour assurer ou faciliter leur accès à la justice, aux services sociaux de base, notamment à l'éducation, à la santé, aux activités économiques, bref, pour promouvoir les usages, les coutumes et la pharmacopée épique, mais dont le monde a besoin aujourd'hui, justement, à l'issue d'une période difficile que le monde a traversée, notamment la Covid-19 et toutes les crises économiques que nous subissons, parce que nous estimons que les peuples autochtones ont un rôle à jouer clé dans la lutte contre le changement climatique à cause des connaissances approfondies qu'ils ont sur la protection des forêts. Et donc nous pouvons les associer à ces grands combats-là. Et donc notre pays, en tant que pays solution, a intérêt à pouvoir promouvoir cette loi à travers une sensibilisation accrue pour justement mobiliser toutes les parties prenantes en vue de respecter et de mettre en œuvre cette loi.
Bien. Alain Parfait Ngoulungou, expert en gouvernance climatique et sur les questions des peuples autochtones pygmées. Merci. Bon début de semaine. À la prochaine.
Merci beaucoup et salut à tous.
Ça, c'est le niveau international.
Inos. Koninga na tena monio.
Nani amu?
Jizo.
Awilo lungu.
Et oui, mesdames et messieurs, c'est sur cette note musicale que nous mettons un terme à l'émission Capi Service de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Dieudonné Nyangassa était à la mise en onde. Marcel Ngoumba Lakeba a assuré la coordination et la réalisation. Au micro, Jody Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.